Richard Sainte-Marie, bonjour.
Bonjour.
Votre vie professionnelle, Richard Sainte-Marie, s'est organisée autour des arts, et je dirais au sens large, parce que vous avez touché à peu près à tout, multidisciplinaire en art, musicien, sculpteur, art visuel. Est-ce qu'on dit estampiste?
Estampier. Oui.
Animateur, on apprend tous les jours. Animateur de radio, écrivain, dessinateur, enfin, il n'y a pas de secret pour vous dans le domaine des arts.
Oui, il en reste toujours.
Ouais?
Oui? Oui. Ben, j'ai fait beaucoup de choses. Actuellement, je fais seulement écrire. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté la radio communautaire et que je fais juste écrire et ça fait toute la différence aussi.
Dans la série que j'ai énumérée, peut-être que ce n'est pas chronologique, peut-être que vous avez fait tout ça en même temps, peut-être que vous
avez... toujours en même temps, oui.
Ouais. Mais l'écriture semble arriver à la fin.
Oui.
Avez-vous toujours écrit et là, ça prend une forme un peu plus importante? Ou
drôle parce que j'écrivais, quand j'étais prof à l'université, j'écrivais des choses pour mes cours. J'ai écrit un manuel scolaire, pour mes étudiants, des notes de cours, mais vraiment bien faites. J'ai écrit des articles en estampes. Et petit à petit, j'écrivais d'abord, autrement dit, ce que je savais, puis parce que je l'avais appris. Puis après, j'ai commencé à écrire pour la radio, quand j'ai commencé à faire de la radio communautaire. Mais là, j'ai écrit de ce que je pensais, parce que je faisais un petit Jacques Languérand de moi-même au début. Et après ça, j'ai commencé à écrire des choses de fiction. Donc, à partir de la connaissance, après ça, les pensées, puis après ça, l'aimanterie, quoi.
L'imaginaire complet. Est-ce qu'il y a une de ces pratiques artistiques qui vous a donné au cours de la carrière plus de satisfaction? Est-ce qu'il y a dans un domaine où si chacune a apporté son lot de plaisir?
Chacune a apporté son lot, surtout que des fois, j'y faisais à peu près tout en même temps, sauf la radio que j'ai fait vraiment... À la fin.
À la retraite?
À la retraite, oui, quand j'ai commencé ma retraite. Chaque chose a son plaisir, mais il y a beaucoup de ressemblances. Par exemple, la radio et la musique, ça se ressemble beaucoup parce qu'il y a le temps. Quand on dit 3, 2, 1, 0, mais à 0, il faut parler, là. 3 secondes, 10 secondes, c'est trop long. Là.
Oui, il faut déjà souffler dans le sax.
Oui, c'est maintenant. Puis si, une fois qu'on a joué la note, une fois qu'on a dit la phrase, ben c'est fait. Là. Il y a le plaisir aussi de l'instantané. Quand on est à la radio, on sait qu'on parle. Il y a des gens qui nous écoutent. On parle dans leurs oreilles. Alors, ils sont là. Et tout à l'heure, ils seront plus là. Alors, il faut performer tout de suite. Et on a un plaisir du moment présent. La peinture, le dessin, ben, c'est autre chose. C'est plus secret.
Ça peut se peaufiner, ça peut se retoucher. Alors que la phrase, une fois dite, et qu'elle est partie sur les ondes...
Elle est partie.
Elle est partie sur les ondes. Okay. Il faut vivre avec, il faut l'assumer.
Ouais.
À peu près dans tous les arts que vous avez pratiqués, une préoccupation qui était derrière, et pourtant ça pourrait ne pas être là, une de vos préoccupations derrière, c'est toujours l'élément de communication que cet art-là pouvait apporter.
Exact.
Vous ne pratiquiez pas l'art pour vous mettre ça dans les tiroirs, enfermer ça dans les garde-robes.
On fait ça pour les gens. Puis moi, j'ai été chanceux peut-être dans ma vie, mais j'ai toujours fait des choses où il y a un public qui est supposé ou qui est présent. Par exemple, enseigner 30 ans à l'université, il y a des gens qui sont là devant vous dans la salle, des fois une centaine, des fois ils sont 20. Des fois, c'est l'enseignement un à un. Hein. Mais il y a quelqu'un qui est là, il y a un public. Et écrire, on n'écrit pas pour soi, parce que autrement dit, ça reste dans le tiroir. Le livre existe quand il est lu. La musique, ça prend un public aussi. Et je m'aperçois que tout ce que j'ai fait dans ma vie, ça demandait un public. Pourquoi c'est comme ça? Je n'en sais rien. Mais j'ai arrêté de combattre ça. Je m'y prête maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a toujours la communication parce que finalement, c'est nous autres qui sommes importants. On est importants. C'est pas les affaires qui sont importantes, c'est pas les choses, c'est les personnes. Alors tout ce que je fais, moi, je m'aperçois que ça se dirige toujours vers quelqu'un.
En prenant la comparaison avec vous avez enseigné 30 ans, vous parlez de la communication et donc d'un public, et dans l'enseignement, le public, on l'a d'en face.
Oui.
Et il réagit instantanément.
Ouais.
Avez-vous souffert, tout en continuant de communiquer, avez-vous souffert de cette instantanéité de la réaction par l'écriture? Ça fait des années que vous écrivez, ça sort, c'est publié, et là, tout à coup, arrive une critique ou arrive une réflexion.
Ouais,
à la radio, on ne sait pas à qui on parle.
Non, c'est ça.
On peut s'imaginer un public, là. Ils sont peut-être 3 à nous écouter présentement. Ils sont peut-être 15 000, on ne sait pas, là.
Bon, j'espère qu'ils sont 15 000.
On se le souhaite.
Mais ben, c'est que la réaction, l'écriture, c'est beaucoup plus tard. Quand on fait un livre, moi, ça me prend du temps, un livre. Je ne suis pas un Romain Gary qui écrit un prix, livre qui gagne un prix en 2 semaines. Mais ça me prend des années, des mois, des milliers d'heures de travail. Donc, la récompense, s'il y en a une, ben c'est tardif. Et des fois, ben il y a des critiques. Par exemple, il y avait une critique l'autre jour à la radio de Radio-Canada à Trois-Rivières. Et à la fin, là, c'était très beau. Puis à la fin, dit, mais il y a un bémol. Alors, ah, c'est quoi ça, ce bémol-là? c'est pas grave, il y a un petit bémol. Bon, elle a trouvé qu'il y avait un bémol.
D'accord.
Mais par contre, ça me renseigne. Mais ça me renseigne, le livre est imprimé.
Ouais. Mais encore faut-il avoir l'ouverture de l'accepter et non pas dire rien compris. Non?
Oui, mais ça, c'est notre affaire. Parce que écrire un livre, c'est une chose personnelle, intime, secrète des fois même. En tout cas, c'est très personnel. Mais publier un livre, c'est public et c'est partagé. Entre moi et la personne qui va acheter le livre dans une librairie, il y a à peu près 20 personnes. Il y a même le camionneur, je compte le camionneur qui apporte le livre à la librairie.
Oui. Bon, ça. Les distributeurs. Oui.
Les distributeurs. L'éditeur, sitôt qu'on lui apporte le manuscrit, c'est très rare qu'il soit publié tel quel. Dans mon cas, c'est absolument pas le cas. C'est vraiment... on a retravaillé dessus, beaucoup. Avec des indications de l'éditeur, des souhaits, des remarques qu'on très 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 gentil, très super, on a la liberté d'écrire, mais la publication c'est une œuvre collective. Il y a un graphiste, il y a une correctrice, il y a des lecteurs, des lectrices qui sont payés pour ça. Il y en a qui sont pas payés. Il y a ma femme puis ma fille qui sont mes premières lectrices que j'écoute d'ailleurs parce que c'est fait pour quelqu'un. Alors, si on s'adresse à quelqu'un, il comprend pas ce qu'on a dit. Il y a de fortes chances qu'on l'ait pas dit de la bonne façon. Mm-hmm. Bon, ça se peut qu'il aime pas ça. Ça, c'est autre chose. Ça,
oui.
Mais si on faut les écouter. Et moi, ben, je suis ouvert. Je pense que j'ai fait un peu d'édition il y a plusieurs années. Et il y avait j'ai travaillé avec des poètes. C'était genre, touche pas à mon œuvre. Ah, mais moi, je suis pas comme ça. Mais je pense que c'est faut pas être comme ça.
Bon, on peut comprendre que le poème est davantage ciselé. Parfois, là, ils ont travaillé le mot, la sonorité.
On les comprend. Il y a des fois peu de mots et tout est là. Et on veut en enlever en plus. Ouais.
Mais connaissez-vous au moment de lancer l'œuvre, comme bon, on va parler de L'Inaveu, qui est votre deuxième roman, un roman policier. Au moment de lancer l'œuvre, connaissez-vous la période d'angoisse? Là, il me glisse des mains. Maintenant, je peux plus rien. Là, comme vous disiez,
non.
Maintenant, il est écrit. C'est figé sur le papier.
Non, mais je lis ça quand je le reçois.
Une fois que c'est fait.
Oui, parce que là, quand on le reçoit, la boîte arrive, on ouvre la boîte, on prend le livre, bon, il sent bon, on l'ouvre, et là, ça y est, c'est imprimé. À la limite, la version informatique, la version qu'on vend sur les iPads et tout ça, on pourrait la retoucher, mais celle qui est imprimée, c'est là que le feeling, là, ça s'est terminé. À moins qu'on refasse le livre, comme je suis en train de faire d'ailleurs avec le Ménage Rouge, mon premier roman. Mais là, on peut retoucher, mais il va être imprimé aussi. Donc,
il va être imprimé, retouché dans une deuxième édition.
Oui, on refait une édition chez Alire. Donc, j'ai récupéré les droits d'auteur et on refait le livre. Mais là, j'en profite pour changer les choses.
Ouais. Vous venez de faire allusion justement qu'on pourrait les retrouver sur des tablettes électroniques. Est-ce que vous êtes de ces artistes dans tous les arts que vous avez pratiqués qui tenaient à aller davantage vers l'artisanat, si on veut, la façon de faire traditionnelle, ou si vous êtes très, très ouvert aux formes modernes?
Moi, j'aime les formes modernes. J'ai enseigné ça aussi à la fin de ma carrière à l'université comme professeur. J'ai enseigné l'infographie. On appelle dans le domaine des arts visuels l'estampe numérique. Donc, j'étais ouvert à ces nouveaux outils. Mais en pensant bien qu'ils ne remplacent pas les autres. Ils font juste s'ajouter aux autres. Il y a toujours un plaisir aussi au livre comme disent certains, le vrai livre.
Oui. Vous travaillez sur un traitement de texte ou au crayon?
J'écris. Même avant, j'écrivais dans un logiciel de mise en page. Mais maintenant, j'écris dans Word. Parce que là, tout le monde a ça, donc on peut. C'est plus facile.
Et ça se corrige tellement mieux.
Oui, puis avec un dictionnaire de synonymes ouvert sur l'ordinateur, 100% ouvert.
Deuxième roman.
Oui.
Roman policier dans les deux cas, Ménage rouge et maintenant L'inaveu. Pourquoi l'univers policier, vous y connaissiez? Vous aviez des compétences en la matière? Qu'est-ce qui vous a amené vers cet univers-là?
Non, je n'ai pas de compétences là-dedans, ni comme criminel, ni comme enquêteur. Mais j'en lisais beaucoup. Mais en même temps, je trouvais que mes références littéraires n'étaient pas dans le roman policier, mais étaient plus dans la littérature généraliste, si vous voulez. Mais je sais pas, les idées qui me sont venues, c'était celles-là. Donc, d'abord, ça commence par un paragraphe, ça commence par une phrase. Alors, la phrase qui m'était venue, c'était une phrase qui était criminelle. Alors, j'ai commencé comme ça. Mais d'ailleurs, mes livres, ils sont pas... Celui-là, L'inaveu, est plus policier.
Que le premier.
Un ménage rouge. Mmh. Vous vous rappelez, on s'en était parlé, il était moins policier, il était plus psychologique. Non, je ne sais pas pourquoi c'est comme
mais
ça.
Mais lui est tout autant psychologique, mais le rôle de l'enquêteur a pris une certaine importance.
Exact.
Vous aimez, dans les deux cas, vous avez créé ce que j'appellerais là, des héros que vous mettez en abîme, c'est-à-dire des héros qui s'autodétruisent presque. Vous aimez scruter ce type de personnalité-là?
Oui, parce que c'est drôle, après avoir écrit le deuxième, je me suis aperçu à quel point ce que vous dites est vrai. Je pense que une chose qui revient toujours dans ce que je remarque dans les gens, c'est qu'il y a tellement de gens qui sont prisonniers d'eux-mêmes. Je vois ça partout. Des gens qui, quand j'étais prof à l'université, j'ai vu ça dans la démarche des étudiants, j'en ai vu dans les collègues, dans des amis. Des gens qui disent « Ah, moi, j'aurais bien aimé ceci, j'aurais aimé, ah, j'aurais donc dû... » Mais oui, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Ils passent 30 ans à se dire « Ah, moi, j'aurais aimé que... » Mais ils gaspillent 30 ans à pas le faire. Et ça prend peut-être du courage, ça prend peut-être aussi certaines...
Certaines chances.
Mais c'est ça, les personnages que j'aime, c'est qu'ils sont pris dans une prison qui se fabrique eux-mêmes.
Oui, justement, c'est un peu différent de celui qui dit « j'aurais toujours voulu voyager, mais finalement, il n'a jamais eu le courage de partir. »
Oui, mais il est malheureux. Donc, il est artisan de son truc.
Peut-être. Mais ce qui est intéressant, dans vos deux romans, les personnages, le premier, c'était Vincent Morin, je pense.
Oui, oui.
Et le deuxième, c'est... ça joue sur différents, mais disons que Georges Dufresne...
Georges Duchesne, oui.
Duchesne, pardon, qui sont les deux héros, ont des vies qui ont été menées à l'échec. Finalement, dans les deux cas. Mais la dérive de leur vie, dans les deux cas, c'est parti sur un détail.
Oui.
Et ça fait dériver toute leur vie. Le premier, on peut le rappeler, il est rentré une journée trop vite.
Oui, chez lui, trop vite. Puis il a trouvé sa femme.
Il est allé à un congrès, puis il est rentré une journée trop vite, puis il a surpris sa femme dans un état qu'il ne devait pas.
Ouais.
Et ça a donné lieu à tout le reste. Son drame est parti de là.
En fait, ce n'est pas un détail, là, mais...
en soi, c'est pas un détail. Le détail, c'est d'être revenu une journée trop vite.
Oui, c'est ça. Ouais.
Comme le détail de celui-ci, c'est Duchesne qui a failli frapper une petite fille.
Oui.
Au tout début, la petite fille sort comme entre deux voitures. Il a failli... Il l'a pas frappé, il s'est arrêté. Oh. Il a voulu la consoler. Et de là part...
De là part l'histoire.
Part son histoire et qui va mener à l'échec total de sa vie.
Oui, puis il y a quelqu'un qui m'avait fait remarquer dans mon premier livre que j'écrivais des histoires, puis mon ami lisait le livre, il me disait « Ben là, ça se peut pas, là, ça se peut pas, ça. » Tourner la page. Ah, bon, ben, l'auteur a réussi ça. Il a continué. Ah, oh, ben là, ça se peut pas. C'est incroyable. Puis tourner la page. Ah, mais coudon, il a réussi. Ben, c'est comme ça dans celui-là aussi. C'est-à-dire que il manque de frapper la petite fille. Après ça, son fils trouve un cahier d'un album de photos dans lequel il n'y a pas de photos, mais il y a plutôt des coupures de journaux.
Ouais.
Il aurait pu ne pas le trouver, ce document-là, mais il n'y aurait pas eu le livre.
Oui.
Mais donc, il y a un magicien, puis c'est moi le magicien. Alors, il a trouvé l'album, et après, il a trouvé un carnet, puis il se pose des questions, mais c'est des choses anodines, finalement, parce que c'est des choses qui peuvent arriver à tout le monde qui a perdu des proches. Après, on fait le ménage de la maison pour vendre la maison de son vieux père. Puis on trouve dans les tiroirs toutes sortes de choses, des vêtements, mais aussi des documents, des papiers, une lettre. Est-ce qu'on a le droit de lire ça? Oui, mais là, il est mort. Mais on peut découvrir. Si on avait ouvert l'autre tiroir, on l'aurait pas trouvé. Mais là, on trouve, puis on s'embarque. Et là, ben, c'est là que l'histoire se construit. Ouais.
C'est ça, mais là, vous dites très bien, on aura l'occasion d'y revenir. Richard Sainte-Marie, vous dites très bien qu'il y a un magicien et c'est vous. Ouais. C'était arrangé avec le gars des vues, là, comme on disait l'expression. Ben, vous pouvez arranger les choses à votre façon parce que... Il y a un certain nombre de détails qui arrivent, entre autres, qui vont nous mettre sur une piste importante. C'est l'enquêteur très, très minutieux qui a rempli des carnets. Et après, il voulait les détruire. Il n'a pas eu le temps de les détruire. Uh-huh. Il est mort avant. Et sa femme se dit à tous les jours, faudrait bien que je m'en débarrasse.
C'est ça, exact.
Mais elle ne s'en est pas encore débarrassée. Ce qui a permis de trouver des choses importantes.
Ouais.
Mais justement, ça, c'est vous qui l'avez... construit pour arriver à ça.
Petit à petit, justement. Ouais. Ouais.
Parce que si c'était parti au vidange à la mort du bonhomme, ben c'est fini.
Le livre serait fini à la page 200 au lieu de 242.
On ne trouve pas. Mais revenons à vos personnages. Vous leur donnez, je vais appeler ça, ce talent de se cloisonner eux-mêmes.
Ouais.
Dans les deux cas, ils vont s'emprisonner dans leur affaire.
Exact, ouais.
Alors que vous êtes un grand témoin de la communication. On en a parlé tout à l'heure, l'art de communiquer, comment c'est important. Et vous avez des héros de silence.
Ah, c'est bon. Ça, j'aime ça, oui. C'est vrai, oui. Le silence est...
Ils s'étouffent en plus avec leur silence.
Oui. C'est l'inaveu, hein, c'est le titre.
Oui.
D'ailleurs, c'est un mot qui n'existe pas en français, mais là, dorénavant, il va exister, comme dit mon éditeur. Mais c'est l'inaveu, c'est la chose...
Qui n'a pas été dite.
Qui n'a pas été dite. C'est même pas un mensonge. Il n'y a rien qui a été dit. Le silence, et c'est construit autour de ça.
Le premier, dans Mariage Rouge, finissait par le dire.
Oui.
Finissait par avouer.
Oui.
Ici, vous êtes resserré davantage et il n'avoue jamais, sinon un document à un moment donné qui va donner des pistes.
Exact. Puis,
Parce que c'était un bonhomme qui tenait des notes lui aussi.
C'est un bonhomme qui tenait des notes, c'est un comptable, puis il gardait tout. Bon. Et il va trouver, là, on a parlé d'un album de photos qui contient des coupures de journaux, qui posent des questions au fils. Trouve le dit album, et un carnet de notes où il y a des montants d'argent écrits avec toujours les initiales CS. C'est qui ce CS? C'est qui ce personnage-là? On va le découvrir à la fin.
Mm-hmm.
Et il manque un document. C'est justement le document que le fils va trouver, un troisième document, un ledger, dans lequel le bonhomme victime raconte. Mais ce livre-là, il était caché aussi, donc il aurait pu ne pas être trouvé.
Jamais, oui.
Et donc, le silence aurait pu persister.
Oui, mais votre bonhomme, le Georges Duchesne, raconte encore d'une façon énigmatique.
Exact.
Il aurait pu donner là ce qu'on cherche, qu'on attend de trouver à la fin du...
Puis à la fin, il y a une solution... Naturellement, une solution de la police, l'enquêteur Francis Pagliaro fait son travail policier à la Sûreté du Québec, donc il est très professionnel. Il fait son travail, il résout une vieille affaire, mais aussi il explique pourquoi il y a eu le silence. Quel est le sens du silence? Et c'est un peu ça aussi qui m'intéresse, moi, parce que le non-dit, l'inaveu, Si on finit avec une explication claire, voici, il s'est tué pour telle et telle raison, bon, c'est fini, le livre est terminé. Moi, j'aime beaucoup que l'histoire en cache une autre, puis que même les personnages en cachent un autre.
Oui.
Et là, le livre, je ne veux pas dire la fin, mais...
C'est difficile de parler de ce livre-là.
C'est ça, parce qu'il ne faut pas le dire. Il ne faut pas l'avouer. C'est l'inaveu.
C'est l'inaveu,
mais
oui.
C'est ça. Mais ce qui est intéressant, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que au moins, on tente d'expliquer pourquoi il y a eu le silence, mais sans clore la question.
Ce deuxième roman a, je dirais, par rapport au premier, si on fait une comparaison, mais qui veut pas dénigrer quoi que ce soit, mais il y a comme une double épaisseur, c'est-à-dire qu'on joue sur deux époques. Il y a le fils qui fait des découvertes et qui arrive à la police pour témoigner de ses découvertes et qui vont les mettre sur une piste d'un événement qui a concerné le père.
30 ans plus tôt.
Et donc, on mène ces deux intrigues-là en parallèle. Celle du fils étant légèrement moins importante parce que c'est toujours pour éclairer, toujours pour éclairer celle du père. Et il y a une petite enquête que les polices mènent là, sur une sorte d'enquête scorpion.
Ouais, oui.
Je ne sais pas si vous avez été influencé par les. Il y a des éléments qui ressemblent à Scorpion à Québec, là, des gens connus qui se font ramasser dans un réseau.
Dans un réseau de prostitution juvénile. Donc, c'était un peu pour rajouter aussi du suspense parce que. On me dit beaucoup dans les critiques qu'ils appellent ça un page turner en anglais, c'est un tourneur de page.
Oui, on veut savoir.
Beaucoup de gens me disent, je l'ai lu tout d'un bout, ça se lit en 3 heures. Bon, mais donc
ça prend 2 ans à écrire, mais ça se lit en 3 heures.
Ouais, c'est épouvantable. Mais c'est comme ça.
Pourquoi Montréal?
Ben, je voulais que mon personnage, mon enquêteur, travaille à Parthenay. Parthenay, c'est comme un symbole, c'est comme
pas la mythe, SQ.
La SQ, le grand édifice qu'on voit en entrant par le pont Jacques-Cartier et qui est un peu mystérieux et tout ça. Et moi, j'ai un ami qui travaille là d'ailleurs, qui m'a aidé pour certains détails. Par exemple, est-ce qu'un policier peut avoir son bureau au 7e étage? Ben oui, il dit le mien est au 7e étage.
Okay.
Donc des trucs comme ça. Et moi, j'aimais beaucoup ancrer ça à une réalité que tout le monde voit.
Et avez-vous eu besoin de savoir davantage comment fonctionne une enquête?
Ça, c'est difficile. Je viens justement de contacter l'École nationale de police pour voir si on pouvait, nous autres, les civils, prendre un cours de technique d'enquête, de processus d'enquête. C'est pas possible. Il faut être policier pour étudier l'école. Ils prennent pas d'auditeur libre, même si on veut payer.
Donc, il faut que vous trouviez un enquêteur.
Faut
faire un ami avec.
Il faut trouver des enquêteurs ou des gens qui... Il y a des policiers à la retraite. Les policiers qui travaillent sont moins enclins à parler de ça. Quoi qu'il y en a qu'on peut consulter. Mais s'il y avait, par exemple, au bureau de relations publiques de la Sûreté du Québec, quelqu'un qui s'occupe des écrivains, ça serait super, parce qu'il n'y aurait pas autant d'erreurs de procédure. Par exemple, on dit un inspecteur de police. Ça n'existe pas, un inspecteur de police au Québec.
Il devrait inspecter la police,
lui. Oui, c'est un sergent détective. Ça existe, un inspecteur, mais il est dans un bureau, puis il a les cheveux blancs, puis il fait de la paperasse, il ne fait pas d'enquête. Alors,
c'est pas son domaine. Si on revenait à vos deux romans, mais particulièrement à L'Inaveu, sur le plan d'une certaine moralité, c'est l'honnête homme qui périt sous le fardeau des culpabilités et du silence qui l'étouffe, et la crapule qui vit une vie dans l'abondance.
Dans l'abondance, mais ça ressemble un peu à ce qui se passe aussi dans la vraie vie. Mais
vous avez cette conviction que les crapules passent à travers le filet et que ceux qui s'y prennent ne sont pas nécessairement...
C'est un peu une blague parce que j'ai lu récemment Mafia Inc. de journaliste de...
Oui, j'ai oublié le nom aussi.
Bon, c'est vrai, en tout cas, bon. On voit là-dedans...
C'est pas Norman Lester.
Non, c'est...
En tout cas, peu importe.
Et on voit que la plupart des grands mafiosi sont tous morts assassinés. Entre eux, d'ailleurs,
les règlements de compte.
Ouais. Alors, la plupart finissent mal. Donc, pendant qu'ils sont vivants, en tout cas, de leur vivant, il y en a qui sont très aisés et qui font souffrir les autres. Mais moi, mes personnages sont plus douloureux que criminels. Ils sont plus victimes. Parce que mon Georges Duchesne, il est victime.
Oui.
Et dans mon
Mais c'est l'honnête homme.
C'est l'honnête homme, oui. Oui.
Le crapuleux semble avoir été, alors qu'il a mené une vie dépravée et de tout ce qu'on veut, a quand même arbore la réussite, la riche maison, le grand garage, la veuve qui
sait rien de son histoire.
Qui sait rien de ça et qui a l'air d'être parfaitement heureuse de la vie qu'elle a menée avec cet homme-là. C'est assez particulier. Autre dimension qui est intéressante aussi, c'est en jouant sur les deux niveaux, le fils qui découvre des documents du père, le fils réalise dans sa vie avec son père, ils n'ont pas été proches.
Exact. Ça, c'est une chose que je voulais mettre aussi, comme quand je dis une histoire qui en cache une autre. C'est sûr qu'on peut lire le livre sans s'occuper de ça comme lecteur. C'est correct, on lit l'histoire telle qu'elle est racontée. Mais dans le deuxième étage, il y a un soubassement, on pourrait dire. Ouais. Il y a justement ça, c'est-à-dire que combien de fois une personne proche meurt, puis on s'aperçoit qu'on lui a pas parlé assez.
On n'en savait rien.
On n'en savait rien. Moi, j'ai un ami qui un jour, j'ai rencontré complètement défait. Il était allé voir son père mourant dans l'espoir que son père lui dise qu'il l'aimait. J'ai dit, à quoi tu penses? Il te l'a jamais dit, puis il a 75 ans. Il te le dit, mais il prenait une dernière chance sur le lit de mort. Naturellement, le bonhomme, il l'a pas dit.
Ouais. C'est souvent le grand regret, ça, des gens.
Exactement.
Disent, d'avoir tellement entendu cette phrase-là, puis de l'avoir jamais entendu.
Ouais. Mais en même temps, j'ai pas fait la morale à mon ami, mais peut-être qu'il aurait dû commencer 40 ans plus tôt.
Peut-être
ça aurait pas marché non plus. Mais ce que je veux dire, c'est que justement, c'est ça qui est intéressant, toutes ces strates qu'on peut mettre dans un livre, mais ça se met pas du premier coup. Il faut retravailler, il faut relire. Puis l'éditeur est extrêmement important là-dedans. Parce que lui, il voit avec les yeux extérieurs, mais avec la compétence. C'est autre chose. Donc, il peut nous faire retravailler certaines choses. Ou, par exemple, un détail, je racontais ça hier à un ami. Un jour, mon éditeur me dit, « Veux-tu vérifier tes niveaux de langage? Pense à ça. » Hein? Niveau de langage, ben oui. Alors, j'ai un professeur de cégep, puis un enquêteur de la sûreté qui étudie en philosophie. Eux autres, ils ont un langage, mettons, c'est le plus haut niveau de langage. Un prof de littérature au cégep, ça parle bien, je pense, j'espère, en tout cas.
Ouais.
Après, il y a une petite fille de 8 ans. Est-ce que quand j'ai regardé, à chaque fois que la petite fille parle, est-ce qu'elle parle vraiment comme une petite fille de 8 ans? Alors, j'ai changé les mots, j'ai changé, pas l'intonation, s'il y en a pas, mais j'ai changé la structure de la phrase. Et même chose pour le méchant, il parle comme un voyou. Est-ce qu'il parle, s'il dit « moi » puis « toi », est-ce qu'il dit tout le temps? Ou si, une fois, il va dire « toi », mais il faut qu'il y ait une raison pour laquelle il va dire « toi ». Alors, ça veut dire un après-midi de travail juste pour checker ça, comme on dit. Et il faut aussi, ça c'est intéressant parce que mon éditeur, il a fait son travail d'édition, il me dit « vérifie ça ». Et sans doute, je ne l'aurais pas fait. Maintenant, je le fais tout le temps.
Et ça fait partie de la crédibilité de l'ensemble.
Exactement. C'est un travail collectif.
Richard Sainte-Marie, la journaliste de Trois-Rivières, vous disait avoir gardé un bémol. J'en ai gardé un du premier.
On va le savoir.
que j'ai sur le deuxième aussi. C'est qu'il y a un certain nombre de questionnements que vos héros ne font pas.
Mm-hmm. Comme?
Par exemple, je vous avais dit dans le premier, je me souviens que le premier, ce qui m'avait interrogé, c'est que le héros ne se préoccupait jamais parce que sa femme était portée disparue et on n'avait jamais le contact avec la famille de sa femme. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Comment il s'était mêlé à la chose? Vous ignoriez cet aspect-là. Cette fois-ci, il se fait envahir par la crapule, disons, qui lui apporte des paquets, mais il ne demande jamais ce qu'il y a dans le paquet. Il garde ça, il se pose pas de questions, il est comme un peu, il interroge jamais l'autre. Comment ça se fait qu'il vient l'harceler comme ça, qu'il tombe dessus dans la rue à tout moment?
Moi, j'ai une explication à ça, celle à laquelle j'ai pensé, c'est que c'est la peur. C'est la peur de ce... C'est que quand quelqu'un nous menace, on fait l'innocent.
C'est parce qu'il pense savoir pourquoi l'autre le menace, pourquoi l'autre le harcèle.
Ouais.
Donc, il n'ose jamais dire une phrase au cas où il pourrait faire l'association.
C'est ça, pour comment on dit, porter flanc, on dit, je n'ai pas l'expression, là.
Mettre
les culottes à terre.
Juste un exemple, ils ont rendez-vous à 5 heures sur la montagne.
Ouais.
Ils arrivent à 2 heures, tous les deux.
Oui. Puis ça ne demande pas. Mais.
Lui, on sait pourquoi il est arrivé à 2 heures. Ouais. Et de voir l'autre là, il aurait pu demander, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu ne m'avais dit 5 heures, comment ça se fait que tu es là à cette
Mais heure? C'est parce que à ce moment-là, mon héros, mon anti-héros, on devrait dire, il a tellement peur qu'il se dit il doit avoir un plan. Pourquoi il est arrivé plus tôt, 3 heures plus tôt lui aussi?
Ben, c'est parce qu'il n'ose pas y demander. Il s'étouffe avec son silence.
Ouais. Toujours. C'est comme il y a un policier qui m'a déjà dit ça des fois dans une scène de violence qui dure des fois quelques secondes. Hein. C'est pas long des fois les scènes de violence. Mais la victime bouge pas. Un peu comme les lièvres ou comme les perdrix ou comme les chevreuils qui bougent pas. Mais on fait ça nous aussi quand il arrive quelque chose de menaçant. Puis on sait que c'est des méchants. S'il arrive ici trois Hells Angels avec des chaînes puis des poignards, probablement qu'on bougerait pas pour se faire oublier. Oh, ils vont s'en aller. Oh, ils resteront pas longtemps. Non, non, ils sont là pour faire mal. Mais c'est ça que je voulais mettre pour. Puis ça, je pense que ça crée la tension. Oui. La tension chez le lecteur.
On se comprend dans ce sens-là, oui.
Oui, c'est comme ça que j'aimerais qu'on le voit.
Mon bémol va dans ce sens-là, effectivement. Et s'il y avait une morale à tirer de votre roman, Richard Sainte-Marie, c'est que si vous voulez que rien se sache des actions que vous avez posées dans votre vie, détruisez toutes les traces avant de laisser ça, parce que les enquêteurs finiront toujours par les trouver. Ça s'appelle donc L'Inaveu, Richard Sainte-Marie. C'est publié aux éditions À lire, un petit livre de poche qui se lit très bien et fort intéressant. Merci beaucoup.
Merci.